Allô?
Allô? Oui, Monsieur Jorion.
Oui, moi-même.
Pascal Hérard, TV5 Monde à l'appareil.
Oui, bonjour.
Bonjour. Eh ben, nous revoilà. Je vous rappelle.
Oui.
C'est un papier sur la, évidemment, la crise financière asiatique, enfin
Oui,
chinoise.
oui.
Voilà, je voulais avoir un peu quelques analyses, éclairages de votre part,
Oui.
entre autres sur la création de la bulle financière.
Oui.
Je voulais savoir, elle est avant tout immobilière, de ce que j'ai compris,
Oui.
mais peut-être pas que. Il y a du shadow banking, donc beaucoup de financement par
Oui.
des hedge funds, des structures parallèles aux banques.
Oui.
Je voulais savoir, voilà, quelles sont les causes de la création de cette bulle avant que parler de l'explosion,
Oui.
d'après vous?
Ben, c'est-à-dire que curieusement, la Chine, pour un pays qui était encore sur le papier au niveau de sa constitution et de son organisation administrative, encore un pays communiste dirigé par un parti communiste, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de protection sociale. Au niveau des pensions, c'est à l'initiative des individus et également au niveau de la protection de l'assurance maladie, ça n'existe pratiquement pas. Et donc la classe moyenne qui s'est constituée petit à petit par d'une part par comment dire, la richesse de l'exportation chinoise jusqu'à récemment, et aussi la tentative de la Chine de se créer aussi un marché interne en augmentant les salaires, fait que les particuliers ont des difficultés à savoir comment constituer leur épargne. Alors, les bulles, évidemment, les bulles financières, qu'il s'agisse d'une bulle boursière ou une bulle immobilière, évidemment, ça apparaît à un profane, à quelqu'un qui n'a pas une grande formation financière, comme un moyen de placement, parce qu'on vous dit les gains sont de 4%, de 7% par an, etc. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est que, comme moi, quand j'habitais aux États-Unis, on vous dit le prix de l'immobilier n'a jamais baissé. Bon, alors, on arrive bien entendu au moment où la bulle éclate, c'est-à-dire que il arrive, c'est-à-dire c'est un problème de recrutement. On ne trouve plus de nouvelles personnes pour monter sur le marché. C'est comme une machine de Ponzi, comme une cavalerie. Il vient un moment où tout le monde est sur le marché boursier, il vient un moment où tout le monde a acheté une maison et on ne trouve pas de nouvelles recrues pour alimenter le marché. Et à ce moment-là, la bulle éclate, bien entendu.
D'accord. Alors, est-ce que donc ça veut dire que l'économie réelle peut être affectée, au moins en Chine, voire en Asie,
Oui.
et de quelle manière? Comment?
C'est-à-dire, bon, la Chine n'est pas parvenue véritablement encore à créer un marché intérieur. Il
33% je voyais de consommation des ménages sur le PIB, c'est
Voilà.
très peu en fait.
Voilà, c'est très peu, voilà, oui. Je crois que c'est mon souvenir, le dernier chiffre que j'ai vu aux États-Unis, c'est de l'ordre du double à peu près, hein.
Oui,
Donc voilà.
c'est ça. Ouais.
Donc
D'accord.
voilà, donc on dépend de l'exportation, et puis on a affaire à des pays qui sont des pays où, soit comme aux États-Unis, la croissance ne repart pas véritablement. Chaque mois, on vous dit ça repart, et en fait, le mois suivant, on s'aperçoit que ça ne repart pas. Ou alors, on a carrément affaire à des acheteurs traditionnels comme en Europe occidentale, où une majorité des pays sont dans des situations d'austérité, de rigueur, etc., et la demande baisse. Si on n'augmente pas les salaires aux États-Unis, si les salaires baissent de fait en Europe, eh bien l'achat de produits que la Chine, le Japon, Taïwan, la Corée produisaient, eh bien ben, ça baisse et bien entendu la demande baisse. Et comme la demande baisse et comme la Chine représente maintenant 25% de la croissance, elle a représenté jusqu'à 50% de la croissance, s'il n'y a pas de demande, le prix des machines, le prix des matières premières s'écroule, etc., comme on voit maintenant pour le pétrole, le cuivre, l'aluminium, etc.
Ouais. Donc là, effectivement, il va y avoir obligatoirement une secousse concrète sur les économies asiatiques qui va se
Ben,
produire.
je crois que je ne sais plus qui a déclaré ce matin en France, je ne sais plus si c'est Monsieur Macron, alors il ne faut pas me citer là-dessus, mais quelqu'un dit oui, mais tout ça n'affectera
Hollande, oui, c'est le président,
Hollande,
oui. Oui,
voilà, exactement. Ça
ça
n'affectera
passe
que de manière
très
tout à
peu.
fait marginale. Mais
Voilà, quelques dixièmes de points de croissance.
voilà, bon, mais ça n'a ça, exactement, c'est le chiffre que j'ai vu. Mais tout ça n'a pas de sens, parce que un pays qui représente 15% maintenant de la production mondiale, s'il est en très très mauvaise posture, ben, ça affecte absolument tout le monde.
Alors, les solutions pour endiguer, on va dire, là, pour l'instant, c'est un crack, mais qui va devenir autre chose, qui va se traduire justement ce que vous dites dans un repli économique. Quelles sont
Oui,
les
oui.
solutions pour endiguer ce crack et ce repli économique qui pourrait se
Bon,
produire?
moi, mon pari, c'est un pari que je fais depuis pas mal d'années, c'est que là, c'est que, et je cite en général les propos là de Deng Xiaoping au moment où il lance là, je dirais l'entrée de la Chine véritablement dans le capitalisme, tâter les pierres du guet une pierre à la fois, c'est-à-dire, en fait, nous, pays communistes, nous allons tenter le capitalisme pour voir si c'est un facteur de croissance, si c'est un facteur de développement économique pour notre pays, mais nous ne nous engageons pas idéologiquement de ce côté-là. C'est-à-dire que c'est toujours un pays dirigé par un parti communiste. Les gens oublient ça. Ils oublient que c'est un pays. Bon, on sait que c'est un pays autoritaire. On voit que quand il y a une explosion comme à Tianjin, là, il y a censure de l'information, etc. C'est un pays qui est toujours un pays de structure stalinienne. On l'oublie. C'est-à-dire qu'un
Oui,
pays
bien sûr.
qui ne s'est pas engagé formellement dans le capitalisme. Il le fait pour des raisons opportunistes et en répétant que ce n'est pas un engagement définitif. Alors on sait bien, il y a dans les partis communistes chinois, il y a des querelles de tendance, etc. Jusqu'à récemment, il y avait les anciens du parti communiste ou les fils, les princes rouges étaient dominants. Il y a eu un revers à la suite de ce scandale de ce monsieur dont j'ai oublié le nom, etc. Mais c'est toujours, il y a toujours une lutte de tendance. Si on continue comme ça pendant encore un mois ou deux, je suis sûr que la tendance néo-stalinienne ou stalinienne va reprendre du poil de la bête. Et si un pays comme la Chine, qui représente 15% quand même de l'économie mondiale, se retire du système capitaliste, ça va être un choc énorme. On n'imagine pas les conséquences que ça peut avoir. La Chine
Oui,
est en
ça serait
position.
donc en fait techniquement, ça se traduirait par quoi ce retrait, on va dire, chinois du système. Alors, ils sont dans l'OMC. Après, c'est au niveau des marchés, enfin,
Mais
il y a l'achat des bons du Trésor américain qui pourrait s'arrêter.
il peut y avoir une position tout à fait de repli, hein. On voit déjà qu'ils achètent de l'or. On dit oui, c'est pas des quantités énormes, mais la machine est en marche. Sur les bons du Trésor, on l'a
Voilà.
vu à l'époque de 2008. Les volumes ne baissaient pas, mais ils se mettaient sur du papier à court terme plutôt que sur des
Des bons
obligations
à
à
long
long
terme.
terme. Voilà, ils ont la possibilité d'intervenir de manière. Et ce qu'on oublie, mais on l'a signalé au moment du début du crash, c'est que la quasi-totalité de ces grandes entreprises chinoises sont toujours des entreprises avec une majorité de participation de l'État. On est toujours dans une perspective où la nationalisation est un problème simplement, je dirais, de tourner un interrupteur.
Ouais. Ce scénario qui effectivement hein, qui s'entend au niveau global, c'est que ça peut générer sur l'économie mondiale, on va dire, particulièrement américaine, européenne,
Oui.
engendrer de façon au niveau des entreprises, de l'économie, de la croissance, enfin voilà, de l'ensemble du système capitaliste occidental.
Oui, il suffit de regarder le prix de la quasi-totalité des matières premières, c'est la demande chinoise qui en détermine actuellement le niveau. Simplement parce qu'elle a été tellement élevée dans le passé qu'elle est en position véritablement de jouer à ce niveau-là. Et on le sait aussi, il y a maintenant une guerre numérique larvée qui est en train de se développer entre les États-Unis et la Chine. Voilà, il y a des escarmouches à tout moment. On ne sait pas qui est entré dans tel type de base de données. On a découvert, c'était, je ne sais plus quand c'était, mais quand même que la Chine elle a trouvé l'accès au réseau qui dirige la plupart des ressources énergétiques aux États-Unis, comme les barrages et des machins comme ça. On est dans une situation de guerre potentielle entre la Chine et les États-Unis.
Ouais. Le scénario de 2008 pourrait se reproduire, mais un peu différemment et de façon plus violente au niveau des.
Avec un déplacement,
Un déplacement, bien sûr. Oui.
c'est-à-dire que c'est la Chine qui se trouve en position de diriger les choses, mais avec une option qui n'existait pas évidemment au moment des États-Unis, c'est-à-dire que aux États-Unis, en Europe, on hésite devant des nationalisations, c'est une chose qui peut se faire ou pas se faire. Quand elle se fait de manière très provisoire, aujourd'hui dans les nouvelles, on nous parle de Lloyds Bank dont la participation de l'État britannique va diminuer sensiblement, etc. La Chine n'a aucun scrupule à se retirer retirer sur tel ou tel marché entièrement du système capitaliste. Elle ne s'est jamais engagée formellement de ce côté-là.
C'est une sorte de tapis qui serait tiré un peu sous le pied des économies occidentales.
Ah, tout à fait, tout à
Si
fait.
on fait une image, quoi, c'est un peu
Tout
ça,
à
en fait.
fait, oui, parce qu'on peut imaginer une situation où le prix de l'offre ou de la demande de matières premières soit déterminé non plus par le marché en Chine, mais au niveau étatique.
D'accord. Donc, ce qui voudrait dire qu'ils pourraient faire flamber les prix,
Ah, tout
finalement.
à fait. Ils peuvent le
C'est
dé
sûrement ce qu'ils pourraient avoir envie de faire,
au
plutôt
lieu
que
de,
de
au lieu de
calculer.
le sortir, au lieu de le laisser se déterminer par le marché, ils peuvent dire, bon, la Chine achète ou vend de l'aluminium à partir de demain à tel prix.
Et là, personne ne peut rien y faire.
Absolument pas. C'est un si l'Argentine, la Grèce fait ceci ou ça, vous pouvez, vous, si vous avez de l'argent, nommer des juristes et demander à ce juriste d'attaquer la Grèce ou l'Argentine devant les tribunaux.
Pas la Chine.
Mais exactement, exactement, ça n'a pas de sens.
Écoutez, très bien. Merci beaucoup pour vos éclairages.
Je vous en prie et signalez-moi le
Tout à
texte
fait, comme
ou la fin.
d'habitude.
Voilà,
Sur
très
votre
bien.
mail de Gmail, c'est ce
Oui,
que je voulais
voilà,
dire.
très bien.
D'accord. Merci beaucoup,
Je vous
monsieur
en
Bourg.
prie. Voilà.
Bonne journée.
Au
Au
revoir.
revoir.